sombra de Nueva York.
Bonsoir, vous écoutez bien Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Le Canu Info du lundi avec quelques minutes sabbatiques de retard. Mais nous démarrons avec Jean-Pierre dans les studios, Robert en duplex pour évoquer tout d'abord l'actualité internationale et peut-être ouvrir sur ce résultat pour une fois qu'un vrai socialiste est élu ou réélu président de la République. On ne va pas s'en plaindre, même si c'est pas encore le. C'est quelqu'un qui, en tous les cas, a dédié sa victoire électorale à Castro et à Chavez. Il ne saurait être totalement mauvais. D'ailleurs, il a d'autres points positifs à son actif au fil des deux mandats réalisés. Donc, il s'agit de Morales, nouveau et ancien président de la Bolivie. Robert, quelques commentaires.
Déjà rappelé que c'était une révolution dans la révolution, puisque c'est un représentant de, on va dire, de la communauté au sens large du terme, de la communauté indienne, et cette communauté indienne qui s'étend du nord au sud du continent américain. Ensuite, il s'est trouvé avec la Bolivie pouvoir à partir de cette identification historique avec des peuples indigènes qui avaient donc été, qui avaient subi le joug du colonialisme, eh bien, les réintroduire, en quelque sorte, restaurer l'histoire dans ce qu'elle a de plus noble, à savoir, la renaissance des peuples ayant donc subi le joug colonial. Deuxième, troisième mandat, donc, et sans doute dernier mandat, c'est ce qu'il a laissé entendre. De toute façon, des gens autour de lui, pour essayer de réduire la popularité qui est la sienne, disait oui, mais voilà, il a fait deux mandats déjà, et ça fait donc c'est des mandats de 5 ans, je crois.
Hein. Oui, je crois.
Des mandats de 5 ans, et il en a fait 10. Alors c'est l'air de dire, bon, c'est parti, il va faire comme Castro ou comme un autre, mais On oublie naturellement, ça c'est les commentateurs occidentaux, et y compris français, on oublie que De Gaulle, par exemple, est resté 10 ans au pouvoir, que Mitterrand est resté 14 ans au pouvoir, que Chirac est resté 12 ans au pouvoir. Donc finalement, pas de leçon à donner aux latino-américains qui en plus essayent de sortir des conséquences du colonialisme, les peuples de ce sous-continent américain. Je voulais simplement revenir sur ce qui avait été deux éléments importants. D'ailleurs, on avait pensé que on se demande d'ailleurs s'il n'y avait pas eu une tentative d'attentat contre Morales lorsqu'il était venu en Europe, et il devait... Alors, ça, en fait, ça n'a jamais été ni démenti, ni prouvé. Il n'était pas venu forcément chercher à Vienne l'ennemi des Américains qui était réfugié parce qu'il avait dénoncé les magouilles informatiques des Américains. Et son avion avait été effectivement interdit de se poser en France, interdit de se poser dans la plupart des pays européens. Et on a craint, côté latino-américain, et c'était pas un fantasme, que effectivement profiterait de l'occasion pour se débarrasser de Evo Morales. Bon, ça ne s'est pas produit, heureusement. Et puis une autre affaire qui remonte à 2008, où en 2008, l'Union européenne avait pondu une circulaire, comme elle sait très bien en pondre, pour définir ce qui était le retour, c'est-à-dire organiser en fait l'expulsion de tous les immigrés qui se pointeraient à l'intérieur de l'ensemble Schengen. Et cette circulaire européenne avait, en 2008, donc, avait provoqué effectivement l'étonnement, le dégoût, mais aussi la colère de ces pays-là. Et dans un premier temps, c'était Chavez, le Vénézuélien, avec Correa et l'Équatorien, qui avait interpellé violemment l'Europe sur cette manière de concevoir l'accueil. Et rappelant par ailleurs que effectivement ces mêmes Européens n'avaient pas demandé l'avis des peuples quand ils s'étaient installés sur le continent sud-américain notamment. Et puis ensuite Morales s'était joint à ce groupe de protestation avec Correa donc et Chavez et d'autres. Et les Brésiliens aussi avaient participé à cette protestation. Et il avait écrit un texte dont j'ai recherché les traces, mais je ne l'ai pas retrouvé, mais qui à l'époque avait eu un grand écho, un beau texte où effectivement il mettait les Européens, non pas en accusation, mais il les mettait devant leur mépris du droit, rappelant cette histoire de la colonisation. Et c'est étonnant donc que l'Europe effectivement se comportait à l'inverse de que la manière dont les Américains Sud s'étaient comportés, et que ceci était vraiment à dénoncer. Et ce texte, sorte de charte de bonne conduite qui faisait que on doit partout sur la planète être capable d'accueillir qui que ce soit, quelle que soit sa situation. C'était cette idée-là qui était dans cette charte. Et ce texte, eh bien, on pourrait le ressortir, on le retrouvera, on aura l'occasion d'en reparler, parce que ce sont ces textes qui universalisent la condition humaine. Voilà ce que je pouvais ajouter, mais tu avais peut-être d'autres choses à dire
sur
cette réélection.
t'as dit plein de choses et on a plein de sujets, donc on ne va pas en dire plus. On dira quand même un mot, Bolivie, Brésil, l'Amérique du Sud, donc avec cette annonce de la candidate Silva qui a fait 22 millions de voix quand même, et qui finalement demande à ses électeurs d'apporter leur soutien à Neves, c'est-à-dire aux candidats de droite, centre-droit, social-démocrate, comme vous voulez. Bref, pour Rousseff, ce n'est pas gagné à l'heure qu'il est, à moins que les électeurs écologistes aient un sursaut de lucidité et s'orientent plutôt vers la candidate de gauche, quoi. Voilà, c'est le 22-10 qu'aura lieu ce deuxième tour, on en reparlera. Un autre sujet que nous devons bien sûr aborder aujourd'hui, c'est celui de Gaza, avec cette conférence de la reconstruction qui a eu lieu au Caire en Égypte ces trois derniers jours. Il s'agissait tout simplement de trouver de l'argent ou de quêter de l'argent pour reconstruire ce que les Israéliens ont consciencieusement et soigneusement détruit pendant un mois, il y a peu de temps. Eh bien, ça marche pas mal puisqu'on en serait à 5 milliards de dollars qu'on a trouvé, avec des donateurs beaucoup de pays arabes, bien sûr. Le Qatar y irait pour 1 milliard, c'est dire s'ils ont envie de se donner aussi de l'influence sur Gaza, en soutenant le Hamas, bien sûr. L'Union européenne, elle aussi, bien que pas pays arabe, hein, irait pour 400 millions d'euros, de dollars, parlant dollars, là. Les Émirats pour 200, Koweït 200, l'Arabie saoudite sunnite pourtant serait prête à verser 400 millions, et les USA 212 millions aussi. Alors bon, je ne sais pas si c'est comme les promesses de dons du Téléthon, hein, entre ce qu'on annonce puis ce qu'on verse, des fois il y a des écarts. Bref, on arriverait alors qu'il y a un total de 5,4 milliards et les Gazaouis sont à la fois très contents. On peut quand même remarquer au passage que les entreprises qui vont reconstruire sont essentiellement des entreprises du bâtiment performante israélienne et que donc les Israéliens, ils font vraiment coup double parce qu'après avoir tout détruit, c'est eux qui vont empocher la plus grande partie de l'argent de la reconstitution. Ça ne gêne personne, il faut reconstruire, c'est le plus important, bien entendu. Et il y aurait une condition associée à ces généreuses donations, c'est la reprise des négociations du processus de paix. Ça n'engage à rien, on peut toujours le dire. Enfin, il y avait plein de beaux mondes, des représentants de tous ces pays, et puis Ben Ki-moon, Kerry, qui d'ailleurs ce soir est à Paris, Abbas aussi, ont participé à cette conférence de reconstruction. Les 4000 morts, là, on ne les reconstruit pas, ils passent par perte et profit, un peu pour tout le monde. Nous, on ne les oublie pas quand même à ce titre. Quoi. Robert, tu es toujours là ?
Oui, c'est effectivement assez scandaleux que il n'y ait aucune contrepartie qui soit demandée à Israël. La logique voudrait que ces 4 milliards eh bien, soient d'une manière ou d'une autre retenus sur les nombreux versements que beaucoup de pays, à commencer par les Américains, apportent à Israël sous forme d'engins militaires pour détruire à nouveau ce qui va être reconstruit essentiellement par les Européens, enfin qui vont payer, puisque comme tu le soulignes, c'est les sociétés israéliennes qui vont profiter et en quelque sorte Israël fait coup triple puisqu'il n'a pas à rembourser les dégâts qui ont été causés. On est là vraiment au maximum de ce qu'on peut faire en matière de bafouer les résolutions du LEUNI qui naturellement impliquaient que ce qui s'est passé depuis devait être à la charge des Israéliens. Alors pour ça, effectivement, on nous dira, ah oui, mais il faut un procès parce que dans nos pays de droit civilisé, on ne peut pas décider de ce que doit être ce que le pays destructeur, agresseur doit payer. Bon, néanmoins que ça s'est bien fait après les deux grandes guerres, les tribunaux ont bien marqué ce que les Allemands devaient payer après 14-18 et après 39-45, même si c'est resté dans un certain flou.
Ouais. On ajoutera aussi, j'ai oublié de le dire, que les Israéliens se payent le culot de faire un blocus et d'interdire l'accès des camions de béton et de ferraille à Gaza au titre que ça pourrait servir à faire des tunnels ou des roquettes, quoi. C'est vraiment très, très, très inégal, cette affaire, hein, comme toujours, quoi. Et puis j'entendais un défenseur des positions de l'État israélien aujourd'hui nous expliquer que finalement, si la guerre avait eu lieu, si les Israéliens avaient pénétré si profondément dans le pays et tellement bombardé, c'est parce qu'ils avaient eu la surprise, tu parles, de découvrir les tunnels au début de leur agression, et de fait, l'existence des tunnels imposait de les détruire tous, donc il avait fallu mener une guerre beaucoup plus importante et profonde que celle qui était initialement prévue. Bon, vous pouvez y croire si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Hein. Voilà, autre sujet, Robert, tu veux peut-être embrayer sur quelque chose ?
On a deux sujets où effectivement ce sont les armes qui parlent. Enfin, c'est dramatique dans le Kurdistan irako-syrien. Bon, c'est moins dramatique, même on peut peut-être commencer par celui qui est le moins dramatique, parce que une possibilité de paix semble vouloir se faire jour en Ukraine. Les obus ont cessé de tomber sur les populations de Donetsk et des villes et villages voisins de la frontière avec la Russie, dans la perspective d'une rencontre au sommet entre Poutine et Porochenko la semaine prochaine. Geste symbolique, les Russes ont retiré 17 000, je ne sais pas qui donne les chiffres comme ça, bon, disons 10 ou 20 000 soldats qui étaient stationnés pas loin de la frontière, côté russe, retirés. On les éloigne de quelques dizaines de kilomètres.
Ouais, pour permettre, faut peut-être pas s'emballer, hein.
Oui.
Déjà, le 3 ou 14, Viviani avait demandé aux militaires officiellement de reculer de 10 km et en réalité, il leur donnait l'ordre d'avancer le plus possible. Poutine serait bien capable de faire la même chose, mais enfin, diplomatiquement, ça fait bien, quoi.
Voilà, et tout ça sur fond de gaz, de pétrole et de gaz, parce qu'effectivement, l'hiver arrivant, on l'a déjà signalé, et les approvisionnements doivent se poursuivre. Les factures devraient être payées. Alors, les Russes, d'ailleurs, à cette réunion de la semaine prochaine, les Occidentaux, et notamment l'Union européenne, est convoquée, non pas pour dire ce qui doit être fait, mais simplement, les Russes souhaitent que l'Union européenne s'engage, donne sa caution, garantisse non seulement déjà les impayés ukrainiens, 5 milliards je crois, ça doit être une chose comme ça, mais également cautionne les prochaines factures de livraison pour l'hiver, qui vont elles aussi se monter à plusieurs milliards. Voilà, donc ça c'est donc, on va dire, la bonne nouvelle. On peut peut-être tout doucement s'orienter vers un secteur pacifié là-bas dans la région, même si effectivement sur le plan institutionnel, rien n'est décidé en matière d'octroi, d'autonomie au territoire de l'Est ukrainien. Par contre, eh bien, peut-être que c'est toujours aussi terrible du côté de Kobané, où les Kurdes, on dit ce soir, ont installé des postes de résistance. Bon, c'est assez confus, je ne sais pas si tu as des choses précises.
Oh non, on n'a pas de choses précises. Hein. Ce qu'on croit comprendre, en tout cas, c'est que les islamistes radicaux veulent à tout prix enlever cette ville et ramènent des troupes. Ils ont l'air d'avoir des réserves, d'autant plus qu'ils attaquent aussi à d'autres endroits dans l'Irak, avec un armement assez performant, et qu'en face, les Kurdes qui réclament des hommes et des armes ne peuvent pas en obtenir, bloqués qu'ils sont du côté turc par des Turcs qui visiblement préfèrent voir les djihadistes l'emporter sur les Kurdes. Et puis des fois on se dit qu'il y a quand même des parachutages qui sont possibles, qu'il y a quand même des parachutistes qui sont possibles, mais là non, apparemment ces hommes isolés avec l'armement qu'ils ont ne doivent se défendre avec ce qu'ils ont, et on nous parle d'une question d'heure ou de jours au maximum pour l'enlèvement de cette ville de Kobané. Donc, y aura-t-il des massacres ? Il doit déjà y avoir pas mal de morts dans tous ces combats, peut-être. Bon, diplomatiquement, on sait bien que tout ça fera peut-être l'objet d'un scandale avec le recul du temps, puisque visiblement, on n'a rien fait pour empêcher ça. Même s'il y a eu quelques bombardements avec les avions américains et autres, on sait très bien que ce type d'intervention, pour être efficace et victorieuse, doit s'accompagner d'une présence au sol et d'une avancée simultanée de troupes au sol. Là, il n'en est pas question. Donc on peut, hélas, peut-on dire, prévoir un écrasement des résistants kurdes à Kobané. Ça ne résout pas tout, ça ne résout pas toute la question de la guerre avec la Syrie, avec l'Irak qui subit aussi ses assauts, sachant que les gens de Daesh, ils sont un petit peu adaptés à la nouvelle situation, c'est-à-dire que puisque quand ils ont un convoi, ils se font cartonner par des avions qui arrivent, ils ne circulent plus en convoi, ils circulent en véhicule unitaire le plus discrètement possible, et ils arrivent comme ça à renforcer leur position et à continuer d'œuvrer sur le terrain, puisqu'ils ne rencontrent pas de grande résistance à ce niveau-là. Voilà.
On pourra ajouter que tous ces jours-ci, en Europe, des manifestations ont eu lieu, les plus importantes en Allemagne, parce que c'est en Allemagne qu'il y a la plus forte présence de communautés kurdes, mais aussi en France, mais aussi dans d'autres pays, et que ces manifestations de soutien au peuple kurde, alors c'est, on peut mettre au peuple kurde au singulier, ou on peut mettre au peuple kurde au pluriel, puisque actuellement il y a un peuple kurde qui est dispersé. Et ces manifestations vont se poursuivre. On ne rassemble pas forcément des masses énormes, mais elles sont bien présentes. À Paris, il y a la plus importante, Marseille, Lyon, pour ce qui est de la France. Et ces manifestations vont se poursuivre au cours de la semaine. J'avais eu l'occasion d'être à Marseille samedi, et ils appelaient effectivement à de nouvelles mobilisations au cours de la semaine, de cette semaine même.
Qui vient. Sans compter que les militants kurdes ne sont pas vraiment sur un front uni. Il y a différentes tendances politiques, et l'union, même dans cette situation difficile, a du mal à se faire.
Oui, entre les courants dont la démarche essentielle est nationaliste, c'est-à-dire la reconnaissance du peuple kurde, et puis ceux qui vont au-delà de cette simple revendication nationale, qui veulent le changement social, c'est par exemple les communistes, qui eux-mêmes sont divisés. On connaît surtout le PKK et avec la lutte qu'ils mènent en Turquie même, mais ils sont effectivement en ce moment, j'ai eu l'impression de les voir ensemble à Marseille, communistes et nationalistes, mais bon, c'est pas, est-ce que ça va constituer un front actif pour permettre que demain, ben, effectivement, cette situation peut déboucher, mais on sait bien que c'est ce que ne veulent absolument pas les États, que ce soit l'Iran, que ce soit la Turquie, surtout la Turquie, parce que c'est là où il y a le plus de Kurdes, et que ce soit la Syrie, et que ce soit l'Irak. L'Irak, depuis la chute de Saddam, on pouvait considérer qu'il y avait déjà une entité kurde constituée. C'était moins évident. Ça commençait à se constituer en Syrie, d'ailleurs, et c'est là où, effectivement, on voit que les Turcs feront tout pour empêcher que ces entités kurdes se développent et surtout se ramifient.
Allez, quelques mots de l'Afrique aussi, où il y a plusieurs brèves qu'on peut relier un petit peu. Le Nord Mali, donc 20 militaires de l'ONU tués en un mois, et le dispositif français qui jusque-là était concentré tend à sortir de ses bases et à s'étendre sur le territoire. Au Nord Niger, les forces françaises auraient détruit un convoi d'islamistes qui y pénétraient. Au Cameroun, on parle de la libération de 27 otages de Boko Haram dans des conditions pas très bien élucidées. Qui sont ces otages et dans quelles conditions? On ne le sait pas, mais on nous annonce la libération. Et puis en République centrafricaine, on pouvait penser qu'un semblant de calme était revenu. C'est pas évident, puisque les anti-Balaka reviennent à la charge en créant une agitation, des barricades à Bangui. Et il y a déjà eu 10 morts, dont un casque bleu pakistanais. On a l'impression, disent les observateurs sur place, un retour à des mois en arrière. La réconciliation n'est pas faite et ces anti-Balaka en veulent à la présidente Catherine Tsanga, qu'ils voudraient voir démissionner. Et elle, par contre, s'accroche bien sûr à son poste, prétendant vouloir remettre le pays en ordre de marche. Voilà, tu avais d'autres sujets ou sur ça?
Peut-être faire simplement un petit bilan et puis dire que comme on dit, la lutte continue pour obtenir que TAFTA, le grand marché transatlantique, ne débouche pas sur une signature entre l'Union européenne et les États-Unis. Une signature qui permettrait de commercialiser à peu près l'ensemble de ce qui est les biens communs. Ça peut aller depuis la santé jusqu'à l'éducation et en passant par d'autres secteurs, la culture naturellement. Empêcher que, à tout prix, que cette signature intervienne. Et rappeler que derrière cette signature, il y aurait aussi la création de tribunaux d'exception. On peut les appeler d'exception parce qu'ils échapperaient au droit, non seulement au droit international, mais au droit de chacun des pays, des tribunaux qui jugeraient des conflits entre les États et les multinationales et qui auraient de fortes chances d'être des lieux où les multinationales pratiqueraient un lobbying forcené et donc dans lequel les peuples seraient complètement perdants. Donc partout on fait le bilan, bon, pas des mobilisations massives, mais des mobilisations symboliques fortes avec l'expression auprès des citoyens. On est d'ailleurs, pour y avoir participé, on est surpris de voir qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas du tout TAFTA, qu'est-ce que c'est. Et souvent au niveau de l'affirmation des slogans, on croit que les slogans pénètrent les peuples, les populations assez rapidement, mais dans la mesure où effectivement les médias relayent au compte-gouttes seulement les démarches comme celle-ci, eh bien on s'aperçoit qu'il y a énormément de gens qui savent pas du tout de quoi il s'agit.
Oui, concrètement, c'est très grave. Hein. En clair, ça veut dire qu'une région, une ville en France qui refuserait de mettre du Monsanto, hein, des produits OGM, ou qui refuserait une exploitation de gaz de schiste, eh ben, pourrait se voir par la multinationale Monsanto ou la boîte qui fait les explorations de gaz de schiste, intenter un procès et devoir payer des millions de dollars pour dédommager, de rien du tout d'ailleurs, mais dédommager la boîte de pognon qu'elle n'a pas pu faire en ne répandant pas ses semences ou en n'exploitant pas les gaz de schiste. Autrement dit, c'est s'imposer une démarche supranationale qui passerait par-dessus toutes nos volontés écologiques et autres. C'est absolument inadmissible. On a peine à croire que ça puisse passer, mais hélas, nos dirigeants européens sont tout prêts à se coucher devant les Américains et les multinationales sur cette question.
Alors la Commission européenne, sous la pression du Parlement, va rendre public les textes. Mais les textes, on les connaît. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va connaître le point actuel des discussions secrètes. Et donc finalement, rien n'avance. Alors on a employé le grand mot à Bruxelles en disant on va déclassifier. Bon, on déclassifie ce qu'était le texte de départ, de préambule en quelque sorte, mais on n'apporte aucun éclairage. On a simplement la confirmation qu'effectivement, il y avait la volonté d'aboutir à cette conclusion.
Deux brefs qui concernent l'Europe, quand même. Intéressante, la Belgique, après 4 mois et demi, s'est enfin trouvé un gouvernement. Ils ont fait plus vite que la fois précédente. Un dénommé Michel, un libéral wallon de 38 ans et Premier ministre. Et il est flanqué de 3 séparatistes flamands du NVA. Donc un gouvernement qui est essentiellement flamand, mais qui semble satisfaire tout le monde pour le moment. Et puis en Angleterre, un problème social. C'est pas souvent qu'il y a des grèves en Angleterre, mais aujourd'hui, il y avait 4 heures du service de santé qui était en grève, et mercredi, ce sera toute la fonction publique, et samedi, une grande manif. Cameron n'arrête pas de presser le citron, de refuser même une augmentation de 1%, alors qu'ils estiment avoir une perte de niveau de vie de 10% en 5 ans. Et il a d'ailleurs dégraissé en 5 ans de 400 000 le nombre d'emplois publics. Donc la coupe est pleine pour les travailleurs de la santé et du social anglais qui manifestent et essaient de mettre un frein à ces démarches. Puis on dira un mot des prix Nobel. C'est pas qu'on soit des fanatiques des prix Nobel. En général, il y a beaucoup à dire là-dessus. Et puis, mais quand ils sont attribués ce prix Nobel de la paix, pour une fois, c'est pas un guerrier comme Obama ou d'autres. Cette Malala Yousafzai, une jeune femme de 17 ans hein, qui a commencé sa militance en Afghanistan à 11 ans et qui s'était fait tirer dessus, vous rappelez peut-être. Elle œuvre pour la scolarisation des filles, ce qui est complètement intolérable pour les radicaux talibans. Elle est d'ailleurs en exil puisqu'il n'est pas tellement question pour elle de retourner dans son pays. Mais on peut dire que c'est plutôt bien que les Nobel aient attiré un peu l'attention sur quelqu'un comme ça. Prix qui est simultanément décerné à un certain Kailash Satyarthi, un Indien à New Delhi, qui lui aussi, si on peut dire, milite depuis longtemps contre le travail des enfants. Et il estime d'ailleurs que le chiffre des enfants qui travaillent dans le monde serait passé de 246 à 168 millions depuis 2000, quoi, ce qui est 57 millions de moins, même plus. Oui. Donc c'est plutôt quelque chose qui va dans le bon sens. Ceci dit, 168 millions d'enfants qui travaillent et qui restent, c'est énorme. Donc cet homme qui, discrètement, mais relativement efficacement, avec beaucoup d'obstination, milite pour cette cause, a été lui aussi distingué. Voilà, si tu... il y a plein d'autres sujets, mais on va peut-être faire une pause musicale, à moins que tu veuilles aborder encore un sujet, Robert.
Non, aller vers la pause musicale, oui.
Pause musicale pour saluer la victoire de Morales. Ça s'appelle « Viva la Révolution », ça fait allusion à la Révolution cubaine, c'est un chant cubain.
Son los días que inspiran a pelear por el triunfo del proletariado que lucha contra el capital.
Adelante, obrero socialista.
Castro, son los días que inspiran a pelear por el triunfo del proletariado que lucha contra el capital.
Adelante, obrero socialista.
Vous écoutez bien Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios. Le Canu Info de ce lundi 13 octobre 2014 avec Jean-Pierre dans les studios, Robert en duplex. Et on va parler tout d'abord des positions de notre gouvernement sur différents sujets, aussi bien les cotaxes. Vas-y.
On peut démarrer peut-être avec ce que les médias appellent la polémique. En fait, c'est pas une polémique, c'est un débat sur le fond, c'est-à-dire va-t-on encore reculer socialement parlant à partir de la révision de l'indemnisation du chômage. Alors, il se trouve que le nouveau ministre Macron relance son besoin pour lui de taper dans la masse d'argent versé aux chômeurs au prétexte qu'il y a un large déficit et que ça ne peut pas continuer comme ça. On peut penser que s'il intervient à nouveau sur cette question, il ne le fait pas de sa propre initiative. On peut penser que Valls est derrière lui et que effectivement il veut peser complètement sur les négociations entre le MEDEF, qui naturellement appuie Macron, et les syndicats qui se contentent une nouvelle fois de dire « Ah non, c'est pas possible, mais non, mais on peut pas faire des choses comme ça, quoi ». On a trouvé la dérive psychanalytique, puisque on est entre le tabou et le totem. Le tabou, donc, ce serait que selon Macron, faut pas toucher, et lui il le déplore, faut pas toucher aux indemnisations. Et le totem, eh bien effectivement, c'est les socialistes qui utilisent ce mot pour dire que c'est justement parce que c'est un totem, il faut pas y toucher. Bon, c'est effectivement on est loin de ce que ça représente, les acquis sociaux. Et c'est Mélenchon, et puis d'autres, mais Mélenchon, a, comme il le fait assez bruyamment, a poussé un coup de gueule en disant « Pas question, c'est pas un problème de tabou, c'est un problème de mise en cause des acquis sociaux ». Et il pointe les journalistes qui, effectivement, font diversion en utilisant un langage qui ne correspond pas du tout au rapport de force entre les classes laborieuses, les ouvriers, le capital travail et le capital financier. Et donc, ce dossier, visiblement... tous ces gens-là voudraient l'ouvrir. On a entendu que à l'Élysée, effectivement, on prend une position un peu en retrait. C'était normal. Mais en fait, on comprend bien que l'Élysée est dans le coup et que finalement, Macron, c'est quand même Hollande qui l'a installé là où il est.
Voilà, donc tout ça sur fond d'écotaxe, puisqu'on est dans les économies. Ségolène a cédé sans même avoir combattu contre le lobby des camionneurs. Peut-être elle estimait que c'est ce qu'il y avait le mieux à faire pour la paix sociale. Elle se retourne contre les autoroutes. Le ministre des Finances lui explique que les contrats sont tellement blindés pour justifier des profits exorbitants des acquéreurs d'autoroutes qu'il n'y a rien à espérer de ce côté-là. Un autre ministre laisse entendre s'il faut aller au tribunal pour justifier l'iniquité de ces contrats, on y ira. Donc on va voir. On cherche aussi des compensations du côté du diesel. Donc avec cette question de la transition énergétique, on nous resserre que d'ici 2050, on n'arrête pas de reculer. On veut passer de 75 à 50% d'électricité nucléaire. Le nucléaire, ça tombe bien. Je vous annonce que aujourd'hui commence le premier salon mondial du nucléaire au Bourget pendant 3 jours. Ça commence juste le jour du vote sur la loi de la transition énergétique. C'est assez gratiné. 500 exposants, 10 000 visiteurs attendus. EDF annonce qu'ils ont 55 milliards à investir pour rénover et maintenir les 58 réacteurs français à plus de 40 ans d'existence. Il y aurait 120 réacteurs à vendre en Chine, suivez mon regard. Et évidemment, dans ces cas-là, les industriels ne hésitent pas. Ils promettent 11 000 embauches et autant d'irradiés, je suppose, en l'espace d'une dizaine d'années. Donc on voit que le nucléaire continue d'avoir le vent en poupe, même si on prend des allures de vouloir s'en défier un tout petit peu du côté du pouvoir. Voilà, alors la transition énergétique, on en parlait, il y a des mesures fabuleuses. En 2016, les sacs plastiques seront interdits. On portera nos commissions autrement. Je trouve ça marrant, c'est super important, les sacs plastiques. Et en 2020, la vaisselle plastique jetable sera également interdite. Comme ça, comme disait Ferré avec les Kleenex, on sait à quoi ça sert d'avoir 10 doigts. Voilà, si ces mesures ne sont pas absurdes, elles ne sont pas à la hauteur des enjeux, visiblement, puisqu'on ne touche pas à des choses beaucoup plus rentables sur lesquelles on pourrait... auxquels on pourrait s'intéresser. Voilà, Robert, as-tu d'autres infos nationales?
Oui, bon, l'échec, pour ne pas dire la tentative de ridiculiser cette loi qui était une loi qui était au centre même du programme de Hollande, la transition énergétique et la croissance verte, eh bien, comme tu l'as dit, là, elle se résume dans la presse aux sacs plastiques et aux assiettes jetables. Ça devrait entraîner de la part de Royal son départ, sa démission. Mais Royal, bon, elle a évidemment le peu qu'elle a dit depuis deux jours. Le vote global doit intervenir demain, mais parce que ça passe au Sénat, mais en fait c'est déjà emballé. Et puis effectivement, le grand débat sur la transition énergétique n'aura pas eu lieu. Et Royal dit mais moi je suis une pragmatique et je le montre dans mon pays là-bas en Charente, Poitou-Charentes. Et bon, l'air de dire bon, j'ai pas obtenu grand-chose, mais vous allez voir ce que vous allez voir quand même. Par contre, il y en a un alors qui c'est très surprenant, placé donc qui est des principaux responsables des Verts, qui lui a fait cette déclaration invraisemblable. Il a dit que la loi est formidable, que on a cru que c'était de l'humour, mais non. Il trouve que cette loi telle qu'elle va aboutir dans le vote, et c'est une loi formidable. Placé, on sait qu'il voudrait bien entrer dans un gouvernement enfin, il rêve d'entrer au gouvernement. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet.
Pour revenir un instant sur Macron.
Je voulais dire peut-être ajouter simplement que on a décidé, c'était voté d'ailleurs dans le cadre du débat sur cette loi, que on allait privatiser toute la production hydraulique de France. Qui était en grande partie nationale, étatisée, voire EDF. Mais par EDF, effectivement, ça nous appartenait. Eh bien voilà, ça va être privatisé. Là encore, on ne comprend pas bien. Je ne sais pas si on peut s'expliquer cette privatisation du réseau hydroélectrique.
Les rentrées de devises pour compenser les abyssales déficits que l'Europe nous sommes de limiter. À ce sujet, je voulais redire à propos de Macron, on peut lui donner quelques idées, puisqu'il cherche, plutôt que de taper sur les indemnisations des chômeurs, il cherche des économies. Il pourrait s'intéresser aux 20 milliards de charges impayées du patronat, qui sont en retard, charges sécu en particulier, d'où le déficit de la sécu. Voilà un endroit où il y a de l'argent à récupérer. Il pourrait tout aussi bien s'intéresser à l'usage qui est fait du CICE par les patrons, dont les dividendes en 2014 ont augmenté considérablement. On leur file du pognon pour qu'ils investissent pour relancer l'industrie, et qu'est-ce qu'ils font? Ils se dépêchent de le verser à leurs actionnaires pour qu'ils aillent courir le planquer en Suisse. On reparlera de la Suisse une autre fois aussi. Donc c'est assez hallucinant. Et puis il y en a quand même un qui a démissionné dans les... un président d'une... c'est pas une association, c'est un organisme de fiscalité écologique. J'ai plus le nom. Mais ce soir, il a annoncé sa démission, écœuré qu'il est par la manière dont sont dénaturées les propositions écologiques. D'ailleurs, on peut se poser la question de savoir si l'écologie, ça doit toujours se transformer en pénalité fiscale, s'il n'y a pas d'autre moyen de mettre des obligations. On l'a vu avec les ventes du CO2, c'était scandaleux, limiter des pollutions sans qu'il y ait forcément quelque chose à vendre ou à gagner derrière, quoi. Ça non plus, ça ne leur vient pas à l'idée à nos dirigeants. Puis je dirais un mot
en politique, je voulais signaler la sortie d'un livre écrit par Jean-Luc Mélenchon, l'ère du peuple. L'ère, c'est E-R-E, hein, c'est donc l'espace, le temps. L'ère du peuple chez Fayard, ça vaut 10 euros. Il y en a deux pages dans l'Humanité, ce qui est assez exceptionnel, compte tenu qu'il existait une certaine tension, pour ne pas dire plus, entre le PG et notamment Mélenchon, et puis la direction du PCF sur l'avenir du Front de Gauche. L'Humanité n'a pas été pingre. Deux pages pour Mélenchon. L'entretien est très, très bien construit et très, très clair. C'est intéressant. Bon, c'est l'ère du peuple et c'est l'appel à une constituante et à la 6e République et une réaffirmation du contenu du programme qui était celui du Front de Gauche lors de la précédente élection présidentielle. Et puis deuxième élément politique qui est arrivé un peu, c'est le départ de Philippe Poutou, qui était, ben on voit qui c'est, Philippe Poutou, c'était devenu un peu un personnage important du NPA, nouveau parti anticapitaliste, dès lors qu'il était le représentant du NPA, la dernière élection présidentielle, puisque on sait bien que c'est comme ça, c'est le système présidentialiste qui fait monter d'un seul coup au firmament des personnages qu'on ne connaissait pas forcément avant. Philippe Poutou dit qu'il en a marre, que ça se passe pas bien au NPA, que finalement, enfin, on va croire, c'est pas par mépris, mais que finalement il pratique mieux la démocratie quand il est dans l'usine Ford où il bosse à Bordeaux que quand il est dans les instances dirigeantes du NPA où il voit toutes sortes de choses qui lui sont désagréables, les rapports entre les gens, naturellement l'éloignement, voyant que c'était surtout les Parisiens qui faisaient tourner la machine et que lui il est à Bordeaux et que bon, voilà. Donc il s'est retiré de la direction et il reste NPA, il continuera d'apporter, parce qu'il a une notoriété, il continuera d'apporter sa voix pour défendre les thèses du NPA, mais il ne veut plus être dans sa direction.
Voilà, bah écoute, une dernière information, on en reparlera, mais on peut déjà l'annoncer. Il y a un rassemblement le 25 octobre, bon c'est pas tout près de Lyon, pour résister à la construction du barrage de Sivens, c'est entre Toulouse et Albi. Et il y a un appel à rassemblement important, un barrage anti-écologique, un de plus. On aura l'occasion dans ce Canu Info ou dans d'autres de vous en dire plus, voire d'avoir un entretien avec un des animateurs du mouvement. Ce Canu Info se termine, il sera rediffusé demain matin à 8h. Si tout se passe bien, vous devriez pouvoir le réentendre sur Internet ce soir ou même un petit peu plus tard. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ben, c'est tout pour le moment. On va souhaiter à nos auditeurs une bonne soirée. Et surtout qu'il ne quitte pas l'écoute de Radio Canu.
Je peux donner une dernière information là.
Allez, 30 secondes, vas-y.
Oui, 10 secondes, simplement pour dire que le RAC, le réseau anti-chasse, a changé de nom. Il l'a fait savoir cette semaine. Il s'appelle maintenant La Chasse une France sans chasse. Et d'ailleurs, on peut le trouver, France-sans-chasse.org. Ils expliquent simplement qu'effectivement, c'était plus compréhensible que de dire anti-chasse. Voilà, ce sera maintenant la France sans chasse qui sera une bataille qui est dure à mener aussi en France.
Oui, en attendant, la chasse est ouverte jusqu'au 15 février, je crois.